Pour la dignité, c'est tout de suite cette émission sur les droits humains par Régis Coulanges, formateur responsable formation à Amnesty International. Bonjour Régis.
Bonjour Odile. Bonjour Léonard et bonjour à tous. Voilà, alors aujourd'hui, on va parler de la loi du plus fort. C'est ce qu'on vit en ce moment, là, dans beaucoup d'endroits du monde. Puis bien sûr, on parlera d'Israël qui rétablit la peine de mort qui cible les Palestiniens. On parlera d'une enquête sur la frappe iranienne contre une synagogue. Au Liban, les soignants qui sont ciblés par Israël. On fera une cartographie des pros et des anti-droits humains. Et puis, on parlera d'une bande dessinée qui vient de paraître, et puis des actions du groupe. Alors tout d'abord, je vais vous lire l'éditorial de notre présidente d'Amnesty International France, qui s'appelle Anne Savinel Barras, et son titre, c'est « La loi des plus forts ». 28 février 2026, deux mois à peine après le massacre perpétré par le régime iranien contre sa propre population, les premières bombes américaines israéliennes s'abattent sur l'Iran. Ce nouveau déchaînement de violence ne saurait faire oublier le courage des manifestants. Toutes générations confondues, dans une mobilisation inédite, ils et elles ont crié leur colère contre leurs dirigeants dans tout le pays. Une incroyable détermination, une leçon de résistance face à une répression brutale, cruelle, inouïe, orchestrée par les gardiens de la Révolution. Pour les familles iraniennes traumatisées, l'attaque israélo-américaine est une épreuve supplémentaire. Ces frappes touchent des centres de soins, des quartiers résidentiels, des lieux de vie, comme cette école primaire de filles à Minab, dans le sud de l'Iran. Ciblé par ces frappes, le guide suprême, Ali Khamenei, n'a pas survécu. Il ne sera jamais jugé pour ses crimes. Quelques jours plus tard, son fils prend la relève. Les experts juridiques internationaux l'affirment. L'attaque américano-israélienne contre l'Iran a violé la Charte des Nations Unies. Nos analyses en cours indiquent que lors des hostilités qui ont suivi, les États-Unis, Israël et l'Iran ont commis des actes illégaux au regard du droit international. Ces États continuent à en commettre à l'heure où nous écrivons ces lignes. Plus de 10 pays touchés, le Moyen-Orient s'embrase et le conflit accentue la rupture de l'ordre mondial dans une volonté non dissimulée de provoquer l'effondrement de notre système et de ses mécanismes de protection de nos droits, de la paix et de la sécurité. La loi du plus fort balaie tout exercice diplomatique, se moque des efforts fournis par ceux et celles qui croient à l'intelligence de la concertation. Dans les pays du Golfe ciblés par l'Iran, ainsi qu'en Israël, les missiles iraniens atteignent des civils. Quant à la population palestinienne du territoire occupé, elle n'est quasiment pas protégée par le dispositif de défense israélien. Cette guerre sert aussi de prétexte à Israël pour renforcer les contrôles à Gaza, aggravant les blocages de l'aide humanitaire, les pénuries de nourriture, de médicaments et de carburant, ainsi que la hausse des prix. Au Liban, la riposte israélienne au tir du Hezbollah pro-iranien est terrifiante. Selon l'ONG Human Rights Watch, Israël y aurait utilisé du phosphore blanc. Des missiles frappent le sud du pays jusqu'à la plaine de la Beka, ainsi qu'à Beyrouth. Les morts se comptent par centaines et des milliers de familles sont contraintes de fuir. À quand la fin de l'impunité des responsables de massacres, la fin de cycles infernaux qui permettent la répétition incessante des crimes? Voilà, c'est l'éditorial de notre présidente qui est paru dans la chronique de avril-mai, c'est le journal d'Amnesty France. On écoute maintenant Betty Blues, la compagnie Betty Blues, dans la chanson « La loi du plus fort ».
Dans la nature, pas de secret, pas de place pour les gringalets. La grenouille gobe la sauterelle, elle, le frelon attaque l'abeille. Le rat aspire l'escargot, le renard étripe l'oiseau. L'aigle l'orque déchiquette le requin. Ça peut te paraître cruel,
cruel,
que le lion charcute la gazelle, mais accepte-le, c'est comme ça. La vie sera plus facile pour toi, car c'est la loi du plus fort, c'est la loi du plus fort. Si tu veux pas qu'il te bouffe, faudra que tu les bouffes d'abord. C'est la loi du plus fort qui met tout le monde d'accord. Toi t'es un super prédateur, t'es pas une proie, t'es un chasseur. Apprendre à se faire respecter, ça commence dans la cour de récré. Si tu veux devenir quelqu'un, vas-y, oui, dénonce ton voisin. Sois fort et fier comme un taureau. Oh, oh, t'es un loup, t'es pas un agneau. Vaut mieux être renard que belette, vaut mieux être requin que crevette, vaut mieux être riche et bien portant que pauvre avec un cancer du sang. Vaut mieux être cadre ou PDG, couvrier et délocalisé, vaut mieux être une multinationale qu'un Africain qui crève la dalle. Car c'est la loi du plus fort, c'est la loi du plus fort. Si tu veux pas qu'il te bouffe, faudra que tu les bouffes. C'est la loi du plus fort qui met tout le monde d'accord. À tes enfants, mets des fessées, des beignes, des gifles, des grosses branlées. Pour rétablir l'autorité dans ce grand pays d'assister. Et tous ces petits délinquants, on va leur faire bouffer leurs dents. Et on va se débarrasser des étrangers et des PD. Car c'est la loi du plus fort, c'est la loi du plus fort. La, la, la. Si tu veux pas qu'ils te bouffent, faudra que tu les bouffes d'abord.
Voilà, alors le lundi 30 mars 2026, la Knesset a approuvé une loi qui permet à des tribunaux d'imposer la peine de mort aux personnes reconnues comme terroristes par Israël. Cette loi rétrograde et dangereuse cible clairement les Palestiniens et Palestiniennes. Nous appelons à son abrogation immédiate. Une loi, cette loi est à contre-courant. Traditionnellement, la législation israélienne restreignait le recours à la peine de mort aux crimes d'une exceptionnelle gravité comme le génocide et les crimes contre l'humanité, et la dernière exécution judiciaire dans ce pays remontait à 1962. À contre-courant de la marche du monde et de l'objectif d'abolition proclamé dans un traité international essentiel que le pays a ratifié en 1991, cette loi viole le droit à la vie, démantèle les garanties fondamentales à un procès équitable, renforce l'apartheid israélien maintenu par des dizaines de lois discriminatoires à l'encontre des Palestiniens. C'est l'une des plus extrêmes au monde sur la peine de mort. Avec cette loi, les personnes condamnées à mort n'ont par ailleurs pas le droit de grâce. Cela en fait l'une des plus extrêmes au monde en matière de peine de mort. Sa cible, les Palestiniens et les Palestiniennes. Avec cette loi, en Israël et à Jérusalem-Est, annexée illégalement, les tribunaux civils sont autorisés à prononcer la peine de mort contre toute personne reconnue coupable d'avoir tué intentionnellement dans le but de nier l'existence de l'État d'Israël. Preuve que cette loi cible délibérément les Palestiniens. Des exécutions en 90 jours, sans garantie de procès équitable. En vertu de cette loi, en Cisjordanie occupée, les tribunaux militaires peuvent désormais condamner à mort des Palestiniens accusés d'homicides volontaires commis dans le cadre d'actions définies comme terroristes par Israël. L'exécution aurait lieu dans les 90 jours seulement après le verdict définitif. Pour rappel, les tribunaux militaires affichent un taux de condamnation de plus de 99% pour les accusés palestiniens. Et ils sont connus pour bafouer les garanties d'une procédure régulière et d'un procès équitable. Son application contre les Palestiniens des territoires occupés pourrait équivaloir à un crime de guerre. Toute peine de mort prononcée en vertu de cette loi constituerait une violation du droit à la vie. Et, prononcée à l'encontre de Palestiniens du territoire palestinien occupé, pourrait également équivaloir à un crime de guerre. Le fait que cette loi soit adoptée le mois où toutes les charges contre des soldats israéliens accusés d'avoir agressé sexuellement un détenu palestinien ont été abandonnées en dit long sur l'ampleur de la déshumanisation des Palestiniens par Israël. Voici nos demandes. La communauté internationale doit faire pression le plus possible sur les autorités israéliennes pour qu'elles abrogent immédiatement cette loi, abolissent totalement la peine de mort et démantèlent toutes les lois et pratiques qui contribuent au système d'apartheid contre la population palestinienne. Les autorités israéliennes doivent veiller à ce que les prisonniers et détenus palestiniens soient traités dans le respect du droit international, notamment de l'interdiction de la torture et des autres mauvais traitements, et bénéficient de garanties d'un procès équitable. Elles doivent également prendre des mesures concrètes en vue d'abolir la peine de mort pour tous les crimes et toutes les personnes. Amnesty International s'oppose en toutes circonstances et sans aucune exception à la peine de mort, indépendamment du crime commis, de la situation du condamné, de sa culpabilité ou de son innocence, ou encore de la méthode utilisée pour procéder à l'exécution. À ce jour, 113 pays ont aboli la peine capitale pour tous les crimes, dont 7 depuis 2020. On écoute une chanson qui a été faite pour Robert Badinter. C'est chanté par Marc-Colin Fourou, « Avoir une vie, une seule ».
Avoir une vie seule.
Avoir une vie,
compter sur soi.
Avoir une voix,
rester en vie,
qui s'élève.
Avoir une voix
contre la peine de mort. La peine de vie,
avoir une voix pour la peine de vie,
abolition de la peine de mort,
abolition de la peine de mort,
avoir une vie, avoir une voix, avoir une vie qui s'élève.
La peine de mort,
la peine de vie,
pour la peine de vie,
une vie seule,
la paix pour la peine de vie,
la paix
avoir pour la peine de
avoir une voix,
pour la peine de vie.
D'être encore en vie,
justifié d'être encore en vie.
Avoir une vie seule. Compter sur soi,
avoir une voix,
rester en vie,
qui s'élève,
avoir. avoir une voix
contre la peine de mort
qui s'élève.
La peine de vie.
Avoir une voix pour la peine de vie.
Abolition de la peine de mort.
Abolition de la peine de mort.
Avoir une vie.
Avoir une voix.
Avoir une vie qui s'élève.
Pour la peine de mort.
Avoir une vie.
Contre la peine de vie.
La vie seule.
La paix pour la peine de vie.
La paix.
Avoir la peine.
Avoir une voix.
D'être encore en vie. Justifié d'être encore en vie.
On a une question de Léonard, oui.
Bonjour, je voulais vous demander c'était quoi les différentes méthodes d'exécution pour la peine de mort.
Alors ça dépend des pays, hein. Donc il y a des pendaisons, notamment en Iran. En Chine, souvent, c'est on leur donne et on leur tire une balle dans la tête et la famille doit payer la balle. Et puis il y a la chaise électrique, notamment aux États-Unis, les injections létales. Enfin, il y a c'est tout pour nous, c'est toutes ces méthodes sont de la torture, qui est complètement interdite par le droit international. Hein. Et puis c'est une atteinte au droit à la vie. Quel que soit le crime, hein, les personnes doivent être jugées, mais on n'a pas à donner la mort, à se transformer, l'État se transforme en assassin, quoi. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est opposé à la peine de mort. On l'a été très très rapidement, parce qu'on s'est aperçu que les prisonniers d'opinion, ceux qu'on défendait au départ, des fois ils étaient condamnés à mort, juste par leur opinion, hein. Et puis on s'est rendu compte que finalement cette peine de mort, c'est la torture suprême. Et il y a des gens aux États-Unis qui vivent 10, 15, 20 ans dans les couloirs de la mort, ce qu'on appelle les couloirs de la mort, et qui, c'est une torture qui se prolonge, quoi. Hein. Voilà, et donc on est abolitionniste, quelles que soient les personnes, voilà.
Et en plus, les exécutions sont parfois publiques. En plus.
Oui, dans certains pays, c'est public, hein. Notamment ben, en Iran, hein, c'était public pour montrer à la population, voilà ce qui vous arrivera si vous continuez à vous opposer à votre gouvernement. Voilà. On va maintenant parler d'une enquête qu'on a menée sur une frappe iranienne contre une synagogue en Israël. C'était le 1er mars 2026, une frappe de l'armée iranienne contre une synagogue causait la mort de 9 personnes, dont 4 enfants. Aucun objectif militaire à proximité du lieu de la frappe ne justifiait une telle attaque. Nous dénonçons une grave violation du droit international humanitaire et demandons l'ouverture d'une enquête pour crime de guerre. J'ai perdu non pas un, ni deux, mais 3 enfants. Du jour au lendemain, la moitié de ma famille a disparu. C'est Itza Biton qui vit en Israël, dans la ville de Beth Shemesh. Le 1er mars, il est avec sa femme Tamar et sa fille de 4 ans, Rachel, lorsqu'une explosion touche la synagogue. À l'origine de cette explosion, une frappe de l'armée iranienne. L'attaque est meurtrière, elle fait près de 50 blessés et 9 morts, dont 4 enfants. 3 d'entre eux étaient ceux de Itza. Nous avons interrogé 4 survivants et un secouriste arrivé peu après la frappe, entre le 16 et le 19 mars. Nous avons également pu analyser les images satellites du site, ainsi que des photos et vidéos de l'attaque. Nos conclusions sont formelles. C'est un missile balistique qui a été utilisé lors de la frappe. Aucun objectif militaire ne justifiait une telle attaque. Nous dénonçons une grave violation du droit international humanitaire. Cette frappe doit faire l'objet d'une enquête pour crime de guerre. Depuis les frappes américaines et israéliennes contre l'Iran le 28 février, le pays riposte par des attaques dans toute la région. Face à l'escalade du conflit, les populations civiles sont en première ligne. Il est temps que la communauté réagisse pour assurer leur protection. Beth Shemesh, Israël, le 1er mars 2026. Il est 14h lorsqu'une onde de choc retentit dans le quartier de Ramalehi où vit Isaac et sa famille. À quelques pâtés de maison, une frappe militaire vient de souffler la synagogue. Le matin même, il y donnait un cours à des étudiants de la Torah. Isaac est terrifié, il ne parvient pas à trouver le courage de s'y rendre. Lorsque je suis finalement arrivé, j'ai constaté que la synagogue était complètement détruite et que l'abri était fendu en deux. L'abri n'était pas sûr, il n'offrait aucune protection. Lorsque les secours arrivent sur place, il est déjà trop tard. Un peu plus tôt dans la journée, ses enfants, Sarah, Abigail et Yaakov, s'étaient rendus à l'abri anti-bombe situé sous la synagogue. Aucun d'eux n'a survécu à l'attaque. 6 autres personnes ont succombé lors de l'explosion. Les gens sortaient couverts de sang et couverts de contusions. Personne ne savait où le missile avait frappé. Il y avait des dégâts partout. Ici, tout le monde se connaît. Je n'arrêtais pas de me dire « ce n'est pas réel ». J'avais l'impression de regarder un film, nous a dit Magen David Adom, qui était un infirmier du service médical d'urgence. Quels étaient les objectifs de l'armée iranienne? Pourquoi avoir choisi une synagogue située dans un quartier résidentiel? Nos équipes ont enquêté, nous avons analysé les images, nous avons également pu identifier les images satellites du site avant et après l'attaque. La trajectoire de la munition et l'étendue des dégâts sur le lieu de la frappe correspondent à l'utilisation d'un missile. Les images prises après la frappe montrent la synagogue rasée ainsi que des dégâts étendus sur un rayon d'environ 500 mètres. Aucun objectif militaire ne justifiait une telle attaque. Une analyse de 2024 révèle que les missiles balistiques iraniens manquent systématiquement leur cible, d'au moins un demi-kilomètre. De fait, l'arme utilisée lors de la frappe était d'une précision extrêmement aléatoire. De plus, l'arme était équipée d'une ogive de grande taille d'environ 500 kilos selon les médias israéliens. Du fait de sa portée et de son absence de précision, l'arme était totalement inadaptée à une utilisation dans des zones civiles densément peuplées. Nous dénonçons une grave violation du droit international humanitaire. Cette frappe doit faire l'objet d'une enquête pour crime de guerre. On écoute maintenant Gauvin Serre et Francis Cabrel qui chantent Boulevard de l'Enfance.
On l'arrache de son lit, l'enfant de Somalie, sans lui laisser le choix. Il aura dès demain un fusil dans les mains et du sang sur les doigts. C'est même pas un ado et ça fait froid dans le dos quand on sait par-dessus tout que les beaux marchands d'armes, les fabricants de larmes sont bien au chaud chez nous.
On la chasse de son pieu et l'empire du milieu la prendra sous son aile. Elle aura dès demain la fillette aux petites mains, une machine devant elle, pour fabriquer bien sûr des poupées, des chaussures qui feront des tas de jaloux quand les immenses cargos tassés comme des Legos arriveront jusqu'à nous.
Nous deux, on en a eu de la chance d'avoir décroché l'innocence au grand loto de la naissance.
On a manqué de rien, tu penses? On a côtoyé l'insouciance sur le boulevard de l'enfance.
On le recrute au berceau, le gosse de Mexico et sa grande sœur de vie, qu'il faudra dès demain écouler en sous-main de la drôle de farine.
Et puis rester fidèle au patron du cartel, le roi de la poudre blanche, celle qu'on sniffe à Paname en trouvant ça infâme, les guerres que ça déclenche.
On l'a la tire de ses draps, la môme qui vient de là où les yeux bleus fourmillent.
Elle aura dès demain un petit sac à main, mais plus de nom de famille.
On lui demandera face à la caméra de poser sans arrêt,
pour que dans 5 secondes des hommes au bout du monde la désirent en secret.
Nous deux, on en a eu de la chance d'avoir décroché l'innocence au grand loto de la naissance.
On a manqué de rien, tu penses? On a baigné dans l'insouciance sur le boulevard de l'enfance.
Nous deux, on a grandi en France, on en a eu de la chance au grand loto de la naissance.
N'a manqué de rien, tu penses, sur le boulevard de l'enfance.
On a manqué de rien, tu penses, sur le boulevard de l'enfance.
On a manqué de rien, tu penses, sur le boulevard de l'enfance.
Voilà, on va parler du Liban. Alors vous savez que bon, au Liban, on a une amie qui s'appelle Antoinette Chahine, qui vient régulièrement en France témoigner contre la peine de mort et la torture, puisqu'elle a connu la torture. Elle avait été condamnée à mort pour un crime qu'elle n'avait pas commis, et elle a été innocentée en appel, grâce notamment à Amnesty International qui était présente à son procès en appel. Elle nous a dit d'ailleurs que elle vit à Byblos, donc qui est une ville qui est relativement protégée des bombardements, mais on est à l'abri de rien au Liban. Et en fait, il y a énormément de réfugiés du sud Liban qui viennent à Byblos, qui sont accueillis dans les écoles, etc. Et elle va dans ces écoles pour aider les familles. Et elle était horrifiée, l'autre jour elle me disait qu'elle avait été horrifiée parce qu'elle avait vu une femme faisant partie du Hezbollah qui disait oh, de toute façon, moi ça, si Israël bombarde ma maison, je m'en fiche parce que le Hezbollah me la reconstruira. Et puis si mon fils meurt, c'est pas grave parce que il sera martyr. Voilà, donc elle était assez horrifiée par ses paroles. Alors maintenant, je vous parle du Liban, où les soignants et les hôpitaux sont ciblés par Israël. C'est une escalade du conflit dans tout le Moyen-Orient. Le Liban est particulièrement impacté. En réaction à l'assassinat du guide suprême, le Hezbollah, organisation chiite libanaise, a lancé une nouvelle série d'attaques contre Israël le 2 mars. L'armée israélienne a alors annoncé sur X que ses forces frappaient des cibles du Hezbollah au Liban dans le cadre de l'opération Rugissement du Lion. Dans les jours qui ont suivi, Israël a mené des centaines de frappes à travers le pays et diffusé des ordres d'évacuation massives qui ont entraîné la peur, la panique et une grave crise humanitaire au Liban. Les populations civiles sont les principales victimes de ces attaques, et les professionnels de santé, qui risquent leur vie pour sauver celle des autres, sont ciblés par l'armée israélienne. Entre le 2 et le 15 mars 2026, l'Organisation mondiale de la santé a comptabilisé 28 attaques contre les établissements de santé au Liban, faisant 30 morts et 35 blessés. Le lendemain, le 16 mars, le ministère libanais de la santé a quant à lui dénombré 40 soignants qui ont été tués et 96 blessés. L'autorité islamique de santé est particulièrement visée par les tirs israéliens. Cette institution civile, affiliée au Hezbollah, fournit des services médicaux et d'urgence à travers le Liban en collaboration avec le ministère de la Santé et l'association des scouts islamiques Risala. Un ambulancier de la Croix-Rouge libanaise a également été tué par une frappe israélienne. Le ministère a ajouté que 5 hôpitaux ont été contraints de fermer. Les parties à un conflit doivent veiller à faire la distinction entre objectifs militaires et biens à caractère civil. Les hôpitaux et autres établissements médicaux bénéficient d'une protection spécifique en vertu du droit international humanitaire. Cette protection s'applique également aux malades, aux professionnels de santé et aux ambulances. Israël justifie ses attaques en accusant le Hezbollah d'utiliser des ambulances et des établissements médicaux à des fins militaires. C'est ce qu'a affirmé le porte-parole de l'armée israélienne dans une déclaration le 14 mars 2026. Le ministère libanais de la Santé a démenti ces allégations. Les hôpitaux et les véhicules médicaux peuvent perdre leur statut de protection s'ils sont utilisés pour des actes considérés comme nuisibles à l'ennemi, selon le droit international humanitaire. Mais dans le cadre du conflit au Liban, Israël n'a aucune preuve que les services de santé ciblés soient utilisés à des fins militaires. Sans preuve, Israël ne peut remettre en cause leur statut protégé. En cas de doute, il convient de présumer que les établissements de santé ne sont pas utilisés pour commettre des actes nuisibles à un ennemi, toujours selon les règles du droit international humanitaire. Les règles à respecter pour les hôpitaux qui ont perdu leur statut protégé. Toute attaque contre un établissement médical ayant perdu son statut protégé doit respecter les règles relatives aux principes de précaution, de distinction et de la proportionnalité, ainsi que tenir dûment compte des répercussions négatives qu'elles risquent d'avoir sur les civils, les malades et les blessés. Ces frappes israéliennes doivent faire l'objet d'une enquête pour crimes de guerre. Parallèlement, à Gaza, le système de santé est détruit. L'armée israélienne a attaqué à plusieurs reprises et de manière illégale des établissements de santé et des équipes médicales. Ces attaques ont contribué à l'effondrement de tout un système de santé à Gaza. La destruction du système de santé par Israël fait partie des conditions de vie visant la destruction physique de la population palestinienne, un acte relevant de la Convention sur le génocide. Aucune responsabilité n'a encore été établie, ni aucune réparation accordée pour ces violations permettant à Israël de continuer en toute impunité à cibler les professionnels de santé, que ce soit au Liban ou à Gaza. On écoute maintenant « Pour les autres » du chanteur HK.
Pour les autres,
ils se battent pour les autres.
Elles se dévouent pour les autres,
ils se dévouent pour les autres,
pour leur honneur et pour le nôtre. Voilà enfin venu le jour où on les applaudit. Aux petits soins, aux grands secours, elles protègent la vie. Soigner les gens, petits ou grands, elles en ont fait le serment. Depuis 10 jours, depuis 1000 ans, depuis l'aube des temps. En pleine nuit, le souffle court sur la corde raide. Elles s'oublient, elles accourent quand quelqu'un crie à l'aide. Et quand elles n'auront plus d'elles, qui viendra les sauver? Qui se dévouera pour elles comme elles l'ont toujours fait? Elles se battent pour les autres.
Ils se battent pour les autres.
Elles se dévouent pour les autres.
Ils se dévouent pour les autres.
Pour leur honneur et pour le nôtre. On les aime, on les admire, mais voilà qu'elles réclament qu'on les aide à nous guérir, et soudain c'est le drame. Des masques et des gants pour faire face, demande-t-elle la lune. En première ligne et sans défense, au comble d'infortune. Rendons-nous compte, c'est une honte, comme on les expose. On les essore un peu plus fort, jusqu'à l'overdose. Et quand l'une d'elles un jour se plaint, le président réplique: il n'y a plus de moyens pour l'hôpital public. Elles se battent pour les autres.
Ils se battent pour les autres.
Elles se dévouent pour les autres.
Ils se dévouent pour les autres.
Pour leur honneur et pour leur...
cette année par rapport au taux d'activité qui augmente de 4%, on diminue les budgets.
On
les diminue, je suis désolée, ça vient d'être publié, les chiffres de Madame Cousin.
Les chiffres sont baissés.
Et en tout cas, au quotidien, il y a des fermetures de lits dans les services.
Des
fermetures de services faute de personnel. On a besoin de moyens, on a besoin de personnel.
Il y aura un jour d'après, il y aura demain. On y sera, nous sommes prêts, et de nos propres mains, nous bâtirons ce monde où règne notre aide et le secours, où celles qui soignent et qui enseignent recevront chaque jour la protection qui leur est due, notre reconnaissance, que leur vocation ne soit plus la cause de leur souffrance. Au crépuscule d'avril, qu'enfin les choses changent, que l'on ne mette plus en péril la santé de nos anges. Elles se battent pour les autres.
Ils se battent pour les autres.
Elles se dévouent pour les autres.
Ils se dévouent pour les autres. Pour leur honneur et pour le nôtre. Elles se dévouent pour les autres. Pour leur honneur et pour le nôtre.
Voilà, alors sur le journal d'Amnesty France, qui s'appelle La Chronique, vous pouvez voir, lire à la médiathèque de Digne-les-Bains, on a deux pages qui s'appellent Haute Tension, cartographie des pros et des anti-droits humains. Donc il y a des petites nouvelles sur les attaques aux droits humains par les États, les groupes armés, les multinationales, les médias. Et puis en même temps, les ripostes en face, il y a des ONG, des défenseurs, des mouvements de citoyens, des institutions internationales, des tribunaux qui résistent et ripostent. Donc voilà ces nouvelles, je vais vous les présenter, celles qui sont sur la chronique de avril-mai 2026, et vous verrez, il y a des mauvaises et des bonnes nouvelles. Aux États-Unis, le 7 janvier 2026, l'université publique Texas fait retirer de ses cours de philosophie le banquet de Platon, accusé de prôner l'idéologie de genre. Aux États-Unis, en février 2026, la barre des 30 000 sifflets distribués pour prévenir de la présence d'agents de l'ICE dans un quartier est dépassée. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Hein. C'est les citoyens qui ont des sifflets et qui préviennent les populations que l'ICE va frapper, va arrêter les gens, les déporter, etc. Au Royaume-Uni, en janvier 2026, l'influenceur britannique Danny Thomo appelle ses abonnés sur YouTube à se rendre en France pour empêcher les migrants de traverser la France. Au Royaume-Uni, toujours, le 13 février, la Haute Cour de justice britannique juge illégale la décision gouvernementale en juillet 2025 de classer l'association Palestine Action comme terroriste. En France, le 28 janvier, l'Assemblée nationale vote la fin au devoir conjugal. Cette notion ne figurera plus dans le Code civil si la proposition de loi est adoptée au Sénat. Le 23 février 2026, le Parlement européen a approuvé des règles modifiant le concept de pays tiers sûr. Un demandeur d'asile pourrait être envoyé dans un pays hors de l'UE et considéré comme sûr, même s'il n'y a jamais mis les pieds. En Russie, en février 2026, malgré la censure anti-LGBT, la série Hated Rivalry, romance entre deux joueurs de hockey sur glace, obtient 8,4 sur 10 sur le portail russe de cinéma Kinopoisk. Le public russe contourne massivement les restrictions pour la visionner. Aux Philippines, en janvier 2026, la journaliste de 27 ans, Franchi Maekumpo, spécialiste des droits humains, a été condamnée à une peine de 12 ans de prison pour financement du terrorisme, une peine extensible à 18 ans. Au Bangladesh, après une campagne portée par la société civile, 400 enfants du bordel de Dauladia, où vivent plus de 1500 femmes, ont obtenu un certificat de naissance et le droit notamment d'aller à l'école. Au Liban, en février 2026, l'aviation israélienne largue du glyphosate, un herbicide cancérigène, sur 500 hectares au sud du Liban, afin d'empêcher la population de revenir chez elle. En Italie, en février, un décret-loi autorise la police à procéder à des arrestations préventives avant le début des manifestations. Au Sénégal, en mars 2026, une nouvelle loi punit la promotion de l'homosexualité. Les personnes commettant des actes contre nature risquent des peines de prison plus longues, de 5 à 10 ans. Au Brésil, la Cour suprême fédérale a condamné un ancien élu, Chiquinho Brazao, et son frère Domingos, à 76 ans de prison chacun, pour avoir commandité le meurtre de Marielle Franco, militante pour les droits des personnes noires et LGBT, en mars 2018. Marielle Franco, c'est une femme qu'on avait demandé justice pour elle lors des signatures de pétition en décembre, il y a 3 ou 4 ans. En février, au Salvador, une centaine de citoyens manifestent contre les procès de masse organisés par le président Bukele dans le cadre de sa lutte contre les gangs criminels. Des milliers d'innocents risquent d'être condamnés. Voilà le tour qu'on a fait, le tour du monde, sur les attaques et les ripostes contre les droits humains ou les ripostes pour ces droits humains. Voilà, c'est à voir dans la chronique d'Amnesty International. On écoute maintenant Grégoire dans sa chanson « Soleil ».
On n'a pas le même drapeau, ni la même couleur de peau. On n'a pas le même langage, la même culture, les mêmes images. On n'a pas les mêmes racines, les mêmes idoles qui nous fascinent. Mais chacun de nous est vivant, avec la même couleur de sang. Et on a tous le même soleil et la même lune sur nos sommeils. Et on a tous une main à tendre. Peut-on encore vraiment attendre? On n'a pas les mêmes coutumes, d'autres rites, d'autres costumes. On n'a pas les mêmes histoires, mais leur mélange ont fait l'histoire. On n'a pas les mêmes parents, mais on est tous encore enfants. Et tous issus d'un métissage, devenus fous mais nés si sages. Et on a tous le même soleil et la même lune sur nos sommeils. Et on a tous une main à tendre. Peut-on encore vraiment attendre? Car on a tous la même planète qui nous supplie d'être moins bêtes. Et on a tous une main à tendre. Peut-on encore vraiment attendre? Humain avec nos différences et le pouvoir d'en faire une chance. Car on a tous le même soleil et la même lune sur nos sommeils. Et on a tous une main à tendre. Peut-on encore attends, car on a tous la même planète qui nous supplie d'être moins bête. Et on a tous une main à tendre. Peut-on encore vraiment attendre? Car on a tous le même soleil et la même lune sur nos sommets. Et on a tous une main à tendre. Peut-on encore vraiment attendre? Car on a tous le même soleil. Et on a tous une main à tendre. Peut-on encore seulement attendre?
Voilà, alors je vais vous présenter une bande dessinée qui s'appelle Une voix pour la liberté, aux éditions Delcourt et Amnesty International. Vous savez qu'Amnesty coédite des albums pour enfants ou pour adultes. Voilà, et cette Voix pour la liberté retrace en dessin, chansons et slogans, le combat du rappeur dissident Tomaj Salehi, 35 ans. Cet ancien ouvrier métallurgique a été condamné à mort en 2024 pour corruption sur terre et propagande contre l'État en Iran. Sa peine a été commuée en prison à vie avant sa libération sous surveillance fin 2024. Voilà, donc c'est la dessinatrice franco-iranienne Baharek Akrami qui est une rescapée des attentats parisiens de 2015. Et dans sa dernière bande dessinée, elle l'a dédiée au rappeur Tomaj Salehi, résistant parmi les résistants, rebelle parmi les rebelles. Traqué sans relâche par le régime iranien, arrêté et emprisonné à de multiples reprises, il a cumulé 753 jours de détention entre 2021 et fin 2024. Les soubresauts de l'actualité ont obligé Barré à modifier plusieurs fois la fin de son album. Elle y a d'abord intégré un épilogue au printemps 2025 quand Israël bombardait l'Iran, se terminant sur un espoir fragile avec une citation d'un morceau de Tomaj Salehi, « Nous sommes encore en vie ». Puis, au cœur de l'hiver, elle a rajouté des cases pour raconter la vague de manifestations de décembre et janvier 2026, réprimée avec une violence effarante. Les morts se comptent par dizaines de milliers, les arrestations sont massives. Baharé Akrami n'arrive plus à dessiner, pétrifiée, perdue. Sous les croquis qu'elle publie en ligne, elle supplie « Relayez, agissez, ne les laissez pas seuls ». Sa souffrance est sans fin, nourrie par un sentiment de culpabilité de ne pas être aux côtés de celles et ceux qui risquent leur vie pour renverser le régime. « Être iranien, écrit-elle, c'est vérifier aussitôt qu'on ouvre les yeux combien d'entre nous ont été persécutés pendant que les autres dormaient ». Voilà, donc c'est une bande dessinée que vous pouvez vous procurer aux éditions Delcourt et Amnesty International. Ça s'appelle « Une voix pour la liberté ». Alors je vais maintenant vous lire un texte de Alizar Ganatonoui. C'est un réfugié iranien opposant qui a dû donner sa maison à l'État pour pouvoir s'enfuir en France. Il vit à Marseille. Il est venu exposer ses œuvres à Digne parce que c'est un artiste, un cinéaste, un peintre, un poète. Voilà un article qu'il a publié dans Le Temps Suisse. Ils ont déjà confisqué nos vies. Ils veulent maintenant confisquer nos biens. Mais un pouvoir qui ne voit l'être humain qu'à travers le butin, la menace et la peur, ne révèle au fond que sa propre misère morale. Ils ne comprennent pas que l'exil n'est pas seulement quitter une terre, c'est perdre sa maison, sa langue, sa famille, ses rues, ses habitudes, et jusqu'au silence dans lequel on respirait. Quand on a déjà perdu tout cela, que signifie encore la menace de confisquer des biens? Que peut-on voler de plus à une ruine? Ils arrivent trop tard. Ils peuvent nous séparer de notre terre, mais ils ne peuvent pas arracher la terre de notre être. Toute tyrannie finit par se heurter à cette limite. Elle peut saisir des biens, mais pas la conscience. Blesser des voix, mais pas la vérité qui leur survit. Nous venons des ruines, avec une mémoire qui brûle encore, et une voix qui ne se laisse pas saisir. Voilà, c'est d'Alizar Ganatnoï. On écoute maintenant une chanteuse iranienne qui a osé chanter sans son voile. C'est Parasto Ahmadi, Air of Freedom.
Thank you. رسم سیاوش که آسان گذشت، از آتش به تلقین ایمان گذشت. از این راه رفته نخواهم نشست، که آب از سر ظلم انسان گذشت. هوا بس هوای هوا خواهی است، هوای سپیدار آزادی است، هوای سپیدار آزادی است. نگه کن به تصویر این آرزو، رها کن غم مانده را در گلو، رها کن غم مانده را در گلو. کجا میروی؟ خانه‌ات مال توست، سند خورده بخت و اقبال توست. ببین پایه تخت تزویر و ننگ، گره خورده لغزش شال توست. نمی ترسم از حیله یا خنجرش، نه از دار و زنجیر و از آخرش. یخ سیلی تو به قلب یقین، دمی کم نکرد از تب باورش. نهای رهایی از این بردگی، اگر خون من شد به یغما برش.
هوا بس هوای هوا خواهی
On va maintenant parler des actions du groupe Dinois. Donc mercredi 29 avril à 17h, c'est le dernier mercredi du mois, c'est notre réunion mensuelle dans les bureaux, dans les salles de la mairie, salle des associations, c'est à droite de l'atrium. Donc si vous voulez venir voir comment se passe une réunion d'Amnesty, n'hésitez pas, à 17h, mercredi 29 avril. Le lundi 4 mai, de 9h à 10h, on fera l'émission pour la dignité sur Fréquence Mistral. Et le mercredi 6 mai, en partenariat avec RESF, Réseau Éducation Sans Frontières, on accueillera le conteur Pepito Matteo, qui nous présentera sa leçon de français à l'Ermitage à 18h. Donc je vous rappelle, mercredi 6 mai, à l'Ermitage à 18h, venez écouter la leçon de français par Pepito Matteo. Voilà, on termine en chanson cette émission, et je vous dis au mois prochain, par la chanson de Christophe Maé et Francis Cabrel, « La boutique des rêves ». Rêvons un peu, ça fera du bien.
À l'abri des passants, au bout d'une ruelle, moi je suis l'artisan des choses les plus belles. Pour faire rêver les gens d'un tour de manivelle, en m'appliquant, je fais les choses les plus belles. Je fais au mieux dans ma fabrique, je fais ce que je peux dans l'arrière-boutique. Je passe mon temps à mettre en flacon ces choses qu'on trouve pas dans vos rayons. Je mets des mots dans des alambics, j'ai des stocks de notes uniques. Je vends du vent et des voix d'ailleurs, je bricole des rêves, je me lève à pas d'heure.
À l'abri des passants, au bout d'une ruelle, moi je suis l'artisan des choses les plus belles. pour faire rêver les gens d'un tour de manivelle. En m'appliquant, je fais les choses les plus belles. Je regarde la vie sur le trottoir, y a des cœurs rouillés que je répare, des tas de souvenirs que je restaure dans l'atelier derrière mon store. Y a plein de sourires devant ma vitrine, c'est mieux que la vie tout ce que j'imagine. Amuseur ou caresseur d'âme, ouvert même la nuit, messieurs dames, à l'abri des passants, au bout d'une ruelle. Moi je suis l'artisan des choses les plus belles, pour faire rêver les gens d'un tour de manivelle. En m'appliquant, je fais les choses les plus belles. Pour les heures sup, j'ai pas de limite. J'avoue, j'arrive tout de suite.
Y'a tant de monde dehors qui attend. Le monde attend, besoin de sentiments.
Et si demain je devais m'arrêter, si la boutique devait fermer,
j'aurais peut-être pas été le meilleur. Mais ce que j'ai fait, je l'ai fait avec le cœur. À l'abri des passants, au bout d'une ruelle. Moi je suis commerçant des choses les plus belles, pour faire rêver les gens, sourire la clientèle. Je fais comme mes parents, je tourne la manivelle.